Bonjour tout le monde. Avant d'aller plus loin, j'aurais une annonce à faire. Tous ceux qui ont des enfants, soit en bas âge, qui sont prêts pour une, qui seraient en âge d'aller à la pouponnière, on vous encourage à les mener à la pouponnière. Ça va être, c'est à ma droite, ça veut dire, ça va être à votre gauche. Alors, c'est jusqu'à l'âge de 2 ans environ. Et pour les autres, jusqu'à l'âge de 12 ans environ, on a des activités pour les jeunes enfants de ce côté-là. Alors, si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise d'aller les reconduire, on vous encourage d'y aller. C'est vrai, ce matin, on a une journée vraiment spéciale. On a des baptêmes, mais on a surtout des témoignages de gens dont Dieu a transformé les vies. Et vous allez voir, on a des jeunes de l'âge de 16, 17 ans jusqu'à une trentaine d'années. Et Dieu a travaillé différemment dans la vie de chacun. Alors, je vous encourage à écouter. On va commencer avec Whitley Césaire. Il y a un très bon témoignage aussi. Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Alors, je vous encourage à bien écouter.
Bonjour. Ben, je m'appelle Wedley. Puis, on va voir comment ça va sortir. J'ai pas préparé de texte comme tel, mais le Saint-Esprit est là. En fait, c'est ça, je m'appelle toujours Wedley. Et désolé. Puis, moi, j'ai été éduqué par deux personnes qui m'ont vraiment aimé. Puis, c'est Suzanne et Georges Stas. Puis, peut-être il y a des personnes qui les connaissent. Puis, ces deux personnes-là, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Je connaissais la théorie. Je pourrais, comme dans mes cours de religion, c'était facile de contredire un prof. Mais je ne l'appliquais pas. J'étais vraiment, comme dans mon enfance, il y avait deux grosses personnalités. Un bon Wedley et un mauvais Wedley. Puis dans une grosse partie de ma jeunesse, ben, j'étais un mauvais Wedley. Puis ça veut dire que je trahissais le monde. Je me mettais des faces. Dans le fond, là, en résumé, tout ce que un adulte de 18 ans peut faire de mauvais, je le faisais pas, mais toutes les autres affaires, je les fais. Fait que vous pouvez imaginer toutes les choses que j'ai faites de mauvais. C'était dégueulasse. J'étais tellement rebelle que je pouvais aller en prison. Puis c'est vraiment grâce à Dieu que je suis ici. Puis ensuite, c'est juste un résumé de qui j'étais. Puis ça, c'est un résumé. Ensuite, en 2005, Dieu m'a comme touché, mais c'était pas vraiment douce la manière. Parce que, en fait, j'avais pas vraiment de cœur. Fait que là, comment ça fonctionnait, c'est que je revoyais à chaque fois les affaires de mauvais que j'ai fait, puis pour une fois, je trouvais ça comme mauvais. Pour une fois. Puis là, je voyais ça, puis là, j'étais pas capable de retenir ça. Donc, j'ai confessé mes péchés. J'ai dit à mes parents, à Suzanne et Georges Eustache. Puis là, ça a pris à peu près une bonne semaine pour confesser mes péchés. Puis, non, c'est pas si drôle que ça. Puis ensuite dans la nuit en 2005, mais j'ai réglé mes affaires, j'ai cicatrisé les blessures que j'ai faites à d'autres mondes. J'ai essayé, et ils peuvent pas oublier qu'est-ce que j'ai fait. C'est impossible. Impossible. Mais au moins Dieu est là pour guérir. Des personnes que j'ai fait du mal. Mais après 2005, j'ai changé. J'ai juste été un bon garçon. J'ai continué. Quand je faisais un péché, ben j'allais voir les autres, mais j'allais demander pardon. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait encore des idoles. Je faisais pas la vie que je faisais avant, mais j'étais toujours. Il y avait encore des affaires à changer. Puis j'ai honte de dire ça. C'est vraiment cette année que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais genre, vraiment, abandonner tout. Puis comment j'ai fait ça, c'est... J'étais là, ici. Puis on chantait un chant. Puis le chant, il m'avait touché. Puis c'était comme la première fois, je suis allé dans une église comme, je pense, plein de fois. Puis le chant m'avait touché. Puis je me demandais, mais pourquoi ça me touche? Mais ça parlait de Jésus qui était mort pour moi. Mais là, hey, man, pourquoi ça me touche? Vous avez les larmes aux yeux. Puis là, je suis allé chez nous, je me suis recueilli, puis j'ai décidé vraiment de donner ma vie. Ensuite, je suis devenu un Jesus freak. Puis, depuis lors, il y a mon petit rêve d'enfant qui revient en surface quand j'étais un bon petit garçon de devenir missionnaire qui revient, puis ça prend plus d'ampleur. Puis, pour finir, il y a un verset qui m'a touché, mais pas dans ma croissance spirituelle. C'était, j'ai lu ça, puis je pense que ça peut être utile pour plusieurs personnes. C'était dans Jean 6. Ça parle quand Jésus fait la multiplication des pains, puis le lendemain, dans le Jean 6, 30, ils disent... « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Puis là, après, Jésus dit, il parle que « Je suis le pain de vie, je suis celui qui est descendu du ciel. » Puis il répète plusieurs fois, mais là, les personnes ne le croient pas en voulant dire que c'est lui le miracle. Puis qu'est-ce que je veux dire ici? Il y en a des personnes, moi je croyais en Dieu quand j'étais jeune. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne suivais pas son chemin. Je m'en foutais. J'aimais ça et rester dans ma crasse. Puis ici, là, il y en a des personnes qui croient en Dieu, mais qui ont besoin de voir. Les personnes qui vont me suivre, c'est toutes des miracles. Je suis un miracle. Fait que vous êtes en train de voir un miracle. En fait... J'ai décidé de donner ma vie. La balle est toute dans notre camp de qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est tout.
On a vraiment un Dieu tout-puissant qui transforme des vies. Et c'était un exemple. On va continuer avec Doris. Doris, c'est l'épouse de Larry La Douceur. Elle a un petit accent espagnol, mais Dieu aussi a transformé sa vie.
Merci. Merci. Bon, bonjour. Je suis très contente. J'ai beaucoup de joie pour donner aujourd'hui mon témoignage. Et je suis une femme colombienne. Je suis née dans une famille catholique romaine, pratiquante et croyante. Je suis la quatrième des cinq enfants. J'ai deux sœurs, deux frères. Je fais l'école secondaire dans une institution religieuse avec des sœurs religieuses. Et c'était une école féminine. On priait à chaque matin à la Vierge. Et finalement, mes parents, à l'âge de 12 ans, m'ont donné la responsabilité de faire mon baptême. J'ai dû suivre deux cours, un pour faire mon baptême et l'autre pour faire la première communion. C'était un peu mon cheminement dans ma croyance, dans ma religion. Et après ça, j'ai fait ma vie professionnelle. Je suis allée à l'école, à l'université aussi. Et j'ai fait un bac en marketing. Je me débrouillais très bien dans le côté professionnel. J'ai décidé de devenir une femme vraiment débrouillante dans le marketing. J'ai travaillé 7 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'avais une bonne position économique. J'étais bien entourée de ma famille et beaucoup d'amis. Mais ça finissait pas. Ma vie était vraiment vide. J'avais beaucoup d'angoisse, des fois. J'avais pas un nom à suivre. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter la Colombie. J'ai demandé la résidence permanente au Canada. Je suis arrivée ici. Pour faire un peu un résumé de ça, c'est connaître de nouveau. Moi, j'ai dû apprendre à marcher dans la neige, bien sûr, à m'habiller, à manger, à parler, à penser, à tout. Mais je ne voulais pas accepter que Dieu avait mis toujours des personnes chrétiennes dans ma vie, même à l'école. À l'université, mon compagnon était un chrétien, moi je disais, ah, mais c'est correct, toi. Pendant les 7 ans de travail, ma compagnon de travail, un médecin chrétien aussi, elle me parlait. J'avais beaucoup de respect pour les personnes qui me parlaient, mais moi, je n'écoutais pas. Mais finalement, ici aussi, 2 mois après mon arrivée ici, j'ai rencontré Larry. Il parlait, comme disait mon ami Jean-Claude Cavana l'autre fois, lui, il parlait à l'espagnol, qu'il ne parle pas. Et moi, je pensais en français et je ne pensais pas en français. Quand il essayait de me parler de Jésus-Christ. Et finalement, un jour, il m'a invité à un déjeuner de l'espoir. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une femme québécoise qui parlait l'espagnol. Et il a dit, Doris, est-ce que tu comprends tout ça? Je disais non. Et il a dit, veux-tu qu'on fasse une prière? J'ai dit oui. Et elle a pris sa Bible et a lu le verset de Nicodème et m'a fait comprendre un peu et m'a touchée. À ce moment-là, j'ai accepté ma conversion. J'avais beaucoup de joie. J'avais changé beaucoup, beaucoup d'idées vers ma formation que j'avais reçue dans ma vie. Mais ça a devenu vraiment mêlant pour moi, le fait de... Quand elle a touché le baptême, après l'arrêt aussi, un autre pasteur dans une autre église aussi, moi j'étais vraiment mêlée. Je disais, pourquoi je dois faire un deuxième baptême si je l'ai fait à 12 ans et j'étais consciente de ça? C'est que je ne comprenais pas c'est quoi la déclaration de foi. Je ne comprenais pas pourquoi on fait ça. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de vous dire que j'ai ma vie en Christ et que j'ai beaucoup de joie d'avoir Dieu dans ma vie. Et j'accepte Christ dans ma vie comme mon sauveur. Et je dois demander pardon publiquement à mon mari. Parce que pendant 3 ans, on a discuté pas mal. Et lui, il a eu beaucoup de patience. Et en plus, a prié beaucoup pour moi. Merci aussi à Célia. Un bon moment. Quand j'ai pris la décision, un bon matin, je me rencontrais tout seul avec mes enfants à la maison, pour hasard. Mes parents ont décidé de quitter ma maison. Larry était parti à la chasse. Je pensais avoir mes parents en attendant que j'avais mes enfants à la maison. J'ai un garçon de 12 mois et 12 ans, Isabella, que j'avais l'angoisse. Je disais, moi, je fais quoi avec? Je parlais à Célia et Célia a répondu. Très chaleureuse. Elle a dit, salut Doris. Et comme tout le monde, on vit des difficultés dans la vie, mais moi, je dois te dire que j'ai à Dieu dans ma vie comme mon cheval de bataille. Et j'ai déversé dans toute ma maison qui me soutient tout le temps, dans la joie et dans la tristesse. Et j'ai vraiment une relation avec Dieu intime. À ce moment-là, j'ai remarqué que ma relation avec Dieu était vraiment tiède. Je n'appartenais pas. J'avais accepté une conversion, mais je n'avais pas fait ma conversion. Je n'acceptais pas. Merci, Célia. Et merci, M. Saint-Pierre. Et c'était comme le point final. On cherchait dans la Bible le soutien des textes, de ça que j'attends, que je n'ai pas vu, que je crois aujourd'hui. Et pour finir, je ne peux pas allonger ma vie, mais mon histoire. J'ai 12 enfants, j'ai beaucoup de choses que Dieu m'a données jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas l'aspect économique que j'avais, mais je suis bien entourée ici. Et je cherchais un verset qui m'a beaucoup parlé. C'est en Hébreux 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit en Dieu, que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Que je recommence et je suis très contente. Merci beaucoup.
Maintenant, on va continuer avec Josiane. Josiane aussi a un témoignage. Dieu a travaillé dans sa vie. Même si elle est toute jeune, Dieu travaille à tout âge.
Bonjour tout le monde. Je suis un petit peu stressée, là, mais ça va bien aller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Josiane Naduc, j'ai 17 ans. Et je vais à l'école de Chambly Academy. Je suis rendue en secondaire 5, alors ma dernière année. Puisque je suis née dans un foyer chrétien, mes parents m'ont toujours élevée selon les principes de la Bible. Et j'ai eu le privilège de grandir dans une église, cette église, pleine d'enseignements bibliques. Je viens à l'église de l'Espoir depuis que je suis toute petite, depuis que j'étais enfant. Mais c'est vraiment à l'âge de 10 ans que j'ai fait profession de foi dans la classe de Mme Prévost. Je me rappelle vraiment bien de l'enseignement qu'elle avait apporté, c'était la parabole du semeur. Puis, tu sais, Mme Prévost était tout organisée, là, puis elle avait une petite maquette vraiment intéressante, puis elle avait lancé des semences dessus. Puis, chacune des semences était tombée dans quelque chose de différent, une dans les mauvaises herbes, une autre dans un chemin passant de piétons, puis une autre dans la terre fertile. Le soleil s'est levé, puis la pluie est tombée. Mais celle-là, la semence qui a vraiment pris des fruits, porté des fruits, c'était celle-là qui était tombée dans la bonne terre. À ce moment-là, j'ai vraiment compris que moi, j'étais une semence perdue, étouffée par les mauvaises herbes puis piétinée par les passants de la route. Puis que j'avais besoin que Jésus me plante dans la bonne terre afin que je grandisse. J'étais pécheur puis j'étais sans issue. Jusqu'à ce jour-là, j'avais pas encore compris que Jésus, c'était mon sauveur à moi. Puis pas seulement celle-là à mes parents. Suite à cet enseignement-là, Mme Prévost nous a demandé si on voulait recevoir Jésus-Christ dans notre cœur et ainsi être une semence rachetée du sol sec. Comme Matthieu 13, verset 23 dit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Moi, j'étais une semence, puis je sais que Jésus voulait me planter dans la bonne terre afin que je devienne son enfant. Alors, j'ai compris que c'était juste Jésus qui pouvait me laver de tout le mal que j'avais pu faire, dire ou penser. Alors, je l'ai accepté dans mon cœur et je suis devenue son enfant. Donc, en grandissant, j'avais mes hauts et mes bas, comme tout le monde. Mais Jésus restait vraiment le rocher de ma vie. C'est vraiment quand je suis rentrée au secondaire que j'ai commencé à le mettre de côté et à changer. C'est pas arrivé du jour au lendemain, mais ça s'est fait tranquillement avec les petits compromis que je faisais ici et là. Je faisais pas des bons choix. Puis la santé de mon père allait pas toujours bien, il était souvent malade, absent. J'avais vraiment de la misère à accepter ça, puis surtout que ça arrivait à cet homme de Dieu-là, ce vaillant soldat. T'sais, c'était tellement un exemple dans ma vie. J'avais de la misère à accepter que Dieu permette qu'il soit malade. Puis j'étais vraiment en colère contre Dieu. J'étais rebelle. J'étais en colère, alors je trouvais mon identité dans d'autres choses. Je mettais Dieu de côté. Je trouvais mon identité dans mes amis, la mode, les choses du monde. Dans le fond, tout ce qui pouvait venir le remplacer. J'étais rebelle envers ma mère. J'écoutais plus les conseils de mes frères et ma sœur. Puis, pendant 2 étés consécutifs, en 2007 et 2008, je me suis portée bénévole au camp des Bouleaux, un camp d'été chrétien pour les jeunes. Dieu m'a tellement parlé avec les gens qui m'entouraient là-bas. J'ai créé des amitiés vraiment précieuses qui m'ont suivie jusqu'à aujourd'hui. J'ai consacré à nouveau ma vie à Dieu parce que je voyais bien que j'étais vraiment malheureuse sans lui et que rien n'avait de sens sans la croix. Puis, en revenant, bien sûr, de mon 2e été, je me sentais prête à affronter le monde entier. C'est toujours ça quand on vient des camps chrétiens. Mais ce boost-là spirituel, il n'était pas centré sur Dieu. Ça n'a pas duré. C'était juste émotionnel, puis ça juste capote. Puis j'ai renoué avec mes mauvaises habitudes. Je vivais vraiment une vie à 2 visages, une à l'église à la maison, puis une à l'école. J'avais de plus en plus de doutes sur ma foi. J'avais vraiment peur d'être laissée en arrière à l'enlèvement puis de me retrouver en enfer. Je faisais des mauvais rêves, des cauchemars, mais j'en parlais à personne. Puis suite à ça, j'ai commencé à prier que Dieu m'aide à remettre ma vie en règle parce que, tu sais, il y avait le mur, puis moi j'étais là, puis j'ai renfoncé dedans, puis à un moment donné, j'étais plus capable par moi-même. Puis Dieu, évidemment, dans son temps, il a répondu beaucoup plus rapidement que je pensais. J'ai réalisé à quel point être vrai avec ceux qu'on aime est important, puis j'ai aussi réalisé qu'il fallait que je change pour personne d'autre que Dieu. Être en paix avec moi-même fut le plus grand fardeau retiré de mes épaules. Mes doutes ont commencé à s'atténuer. Je faisais plus de mauvais rêves. J'avais plus ces pensées-là. Je pouvais plus parler facilement de Dieu aux gens autour de moi. Puis, je me sentais à ma place parce que Jésus, c'était mon meilleur ami à nouveau. Puis, comme Jean, chapitre 14, versets 1 à 2 dit... Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ce verset-là m'aide tellement avec mes doutes, puis ça m'a tellement aidé à me rassurer tout ça dans ma foi, parce que ça dit dans le fond que Dieu, il me prépare une place. Je suis choisie, je suis son enfant, puis il va toujours être là avec moi, peu importe ce qui arrive autour de moi. Puis, un autre verset qui est dans Marc cette fois-ci. Verset 16, chapitre 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Je désire me faire baptiser aujourd'hui parce que c'est un commandement dans la Bible de Dieu, mais aussi parce que je désire le servir de tout mon cœur, puis... J'ai ce feu-là pour Dieu, puis je veux pas qu'il s'éteigne, comme quand on vient des camps chrétiens, mais je veux vraiment que ce soit un feu qui dure jusqu'à la fin de la course. Puis avant de terminer, j'aimerais dire un merci spécial à mon papa pour son écoute et son amour inconditionnel envers moi. Au travers de toutes les épreuves, puis toutes les choses qui se sont passées. J'aimerais dire merci aussi à toute ma famille puis mes amis qui se sont déplacés. C'est vraiment apprécié. J'aimerais terminer avec un verset. Dans Romains. Un des versets qui me rassure le plus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination... Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra me séparer de l'amour que Dieu manifeste en Jésus-Christ, notre Seigneur.
On va poursuivre avec Vicky. On sait que Dieu sauve n'importe qui, n'importe où. Alors, les deux prochains, c'est des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick. Alors...
Bonjour, je m'appelle Vicky Boucher. Je suis un petit peu stressée ce matin. Je ne peux pas croire que tu fais ça chaque semaine, Yannick. Je suis née dans une famille catholique. En grandissant, j'allais à l'église, mais je ne me retrouvais pas. Je savais que Dieu existait, mais j'avais choisi de lui tourner le dos. Les années qui ont suivi, j'étais tourmentée. Je me posais beaucoup de questions, mais sans avoir de réponse. Le Seigneur a mis sur mon chemin de bons chrétiens, des collègues de travail, et je les écoutais parler. Ce qu'ils disaient m'intéressait. Les conversations qu'ils avaient réveillaient quelque chose en moi, mais je refusais quand même d'accepter le Seigneur dans ma vie, de suivre le chemin auquel il m'appelait, et ce même si je savais au plus profond de moi-même que c'était le chemin à suivre. Un de mes amis et sa femme m'ont offert une Bible. Ils y ont inscrit les questions, il en a, les réponses aussi. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Dieu l'a promis. Je continue à résister à l'appel et pendant plusieurs années encore, mais le Seigneur est patient et bon. Il a une façon de nous toucher et de nous trouver. Dans les dernières années, j'ai réalisé que pour être têtu ne me servait à rien. Ma vie n'avançait, j'avais aucune réponse et de plus en plus de questions. Et les réponses, elles étaient devant moi dans la Bible. Je me devais d'écouter mon cœur. Le Seigneur m'appelle. J'ai demandé à ce couple d'amis de me joindre à leur famille pour aller à l'église et ma marche avec le Seigneur a commencé. Le synchronisme du Seigneur est toujours parfait. Au même moment que je commençais mon cheminement avec lui, c'est alors que j'ai perdu mon emploi. Mais il a fortifié ma foi. Je n'ai manqué de rien et je peux même dire qu'elle est grandissante. J'ai eu plusieurs obstacles, des difficultés matérielles et spirituelles. J'ai douté, mais le Seigneur ne faisait que me bénir et me bénir quand même avec son amour. Excusez-moi. Avec son amour et ce qui est pour moi des miracles et du timing parfait. Mon amour pour lui grandit et ma foi est ancrée en lui. Maintenant, j'ai toujours des questions, mais le Seigneur est là pour moi. Que les moments difficiles sont là pour me faire grandir et me préparer à quelque chose de merveilleux. Je vais terminer avec quelques lignes d'un psaume qui m'a beaucoup aidé pendant mes moments de difficulté dans les derniers mois. C'est le psaume 91, versets 1 et 2. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très, très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, « Tu es la forteresse où je trouve mon refuge. Tu es Dieu, j'ai confiance en toi. » Merci.
Une crainte de Vicky, c'est qu'elle avait peur de tomber en s'en venant en avant, mais le Seigneur était encore avec toi, Vicky, c'est bon. Le dernier ce matin, c'est David. David, vous l'avez vu combien de fois à la porte et ainsi de suite, mais Dieu a aussi travaillé dans la vie de David et c'est pour ça qu'il est ici ce matin pour donner son témoignage.
Bonjour tout le monde. Je vous ai peut-être beaucoup accueilli à la porte, mais il n'y a jamais autant de monde que quand on est en avant. Bonjour, mon nom c'est David. J'ai 27 ans, presque 28. Ça fait maintenant près de 22 ans que je connais Dieu. Je vais vous parler un petit peu de mon cheminement depuis ces dernières années. Le tout a commencé quand j'avais 5 ans. Je ne me rappelle pas vraiment de ce qui est arrivé parce que ça a commencé avec ma mère qui a dû être hospitalisée pour un problème au poumon. Elle a dû rester à l'hôpital pendant 5 jours. Donc, c'est plus ça que je me rappelle d'avoir perdu ma mère pendant 5 jours, plus que nos premiers pas à l'église. Le médecin de ma mère était chrétien. Et pendant ces 5 jours-là, ben, il a parlé à ma mère. Mes parents avaient déjà commencé un petit peu à lire la Bible, mais ils ne savaient pas trop où aller. Le médecin, par contre, allait à une église anglaise. Mes parents qui connaissaient plus ou moins une église, ben, ne voulaient pas commencer dans une église en anglais. Donc, il a été référé à un monsieur surprenant, un autre médecin à cet hôpital-là, qui a recommandé d'aller à l'église, une église à Saint-Constant. La première journée que mes parents sont allés à l'église, c'était un pasteur remplaçant. Et d'après ce que j'ai pu savoir après, c'est que ce pasteur-là était un peu monotone, pas très dynamique. En autre mot, pour des nouveaux chrétiens, pas très idéal. Mais par contre, mon frère et moi, on était à l'école du dimanche. En revenant, on avait bien aimé ça, on avait fait du bricolage, on avait parlé de Dieu. Mes parents avaient l'idée déjà de revenir une deuxième fois, mais le fait qu'on ait aimé l'école du dimanche, qu'on s'était bien amusé, a pesé un petit peu dans la balance pour pour que mes parents reviennent. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à suivre Dieu, à voir un peu Dieu, mais encore là, à ce moment-là, c'était plus la croyance de mes parents que ma propre croyance. Dès que mon frère et moi, on a pu lire, on a commencé à lire la Bible le soir. On a commencé, bien sûr, par les psaumes et le Nouveau Testament. Une fois rendu un peu plus vieux, on a commencé à lire à partir de l'Ancien Testament. Mais vraiment, ma démarche personnelle, je me rappelle pas quand du moment que j'étais sans Dieu, disons que Dieu a toujours fait partie dans mes souvenirs de ma vie. Mais je dirais que le moment où le changement s'est fait entre la croyance de mes parents et ma propre croyance, ça serait au début du secondaire. À ce moment-là, je me suis dit, ben, est-ce que je crois vraiment à ça? Est-ce que je crois vraiment que Dieu est pour moi? Ou plutôt, est-ce que je suis parce que c'est mes parents qui suivent? Et on dirait que j'ai comme essayé de voir ma vie sans Dieu. Ça m'a fait peur. Puis je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre toutes mes angoisses, tous mes problèmes, mais aussi toutes mes joies en Dieu, à dire ben, merci pour ça, ou aide-moi avec ceci. C'est sûr que des fois, je me demande pourquoi je suis là, pourquoi que je suis à cet endroit-là, pourquoi j'ai fait telle action, pourquoi j'ai fait telle chose. Mais je sais qu'au fond de moi-même, ben, Dieu me voulait là, Dieu me voulait à cet endroit-là. Je ne saurais peut-être jamais pourquoi j'ai pris ce chemin-là. Je ne sais pas pourquoi j'étais à une rencontre. Mais je sais que si c'était soit pour moi, soit pour quelqu'un d'autre, j'étais là. Je voudrais finir avec un verset, pas nécessairement pour qui m'a aidé à croire, mais qui guide ma marche chrétienne. Pour vous mettre un petit peu en contexte, mon frère et moi, on a 2 ans de différence, mais on a parti pour les études en même temps. La même journée, en fait. Donc, du jour au lendemain, mes parents se retrouvaient seuls, puis nous autres, ben, sur le chemin de la vie. Puis je me rappelle, ce matin-là, mon frère a laissé une petite feuille à mes parents. Un des versets dedans, c'était Matthieu 6, 25 à 34, que je vais vous lire. Mais c'est à partir de ce moment-là que ce verset-là me touche vraiment, parce que ça m'aide à voir la vie comme Dieu voudrait que je voie ma vie. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne mangent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci.
Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est bénissant d'entendre ces mots, n'est-ce pas? Voir ce que Dieu a fait dans leur vie, dans chacune des personnes. Merci beaucoup. Alors, on va passer au temps d'offrande. Alors, pour les visiteurs qui sont ici, ceux qui ont été invités, sentez-vous bien à l'aise de laisser passer tout simplement la poche, ou si Dieu vous a mis à cœur de donner, sentez-vous bien à l'aise aussi de le faire. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est une joie qu'on a ce matin de se présenter devant toi, Seigneur, avec tous ces témoignages de transformation de vie, Seigneur. Et on se rappelle ce que tu as également fait dans notre vie. Et, Seigneur, c'est un miracle. Tu es venu nous chercher à un endroit où est-ce que personne n'aurait pu nous chercher. Seigneur, par nous-mêmes, on n'est pas capable de faire le bien. Et c'est toi qui viens transformer nos vies pour qu'on puisse le faire. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Mon Dieu, on veut te louer et t'adorer pour ce que tu as fait dans nos vies. Et une façon de le faire, c'est de te remettre une partie de ce que tu nous as donné, Seigneur. Puisses-tu bénir ces dîmes et ces offrandes. Amen.
Que ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nous.
C'est touchant, hein? C'est édifiant. C'est bon de voir ça. Cette semaine, j'étais en train de réfléchir à ce que c'est le baptême, à ce que ça représente, et l'image qui m'est venue à l'esprit en méditant sur ça, pour essayer de mettre ça dans des termes concrets et clairs pour des gens qui vont assister à des baptêmes une première fois, pensez à une seconde chance. Je pense que c'est une bonne image qu'on comprend bien dans notre société, une seconde chance. On a tous besoin, à un moment ou à un autre dans notre vie, d'avoir une seconde chance. Dans certains des témoignages qu'on a entendus, c'était plus évident. Je pense au témoignage de Wedley, avec lequel je peux m'identifier énormément. On sent ce besoin d'une seconde chance. Et chacun d'entre nous, dans notre vie, il y a de ces moments-là. Des fois, ils vont se manifester dans notre vie à travers des situations bien particulières. Alors, ça peut être une histoire d'amour manqué, une histoire d'amour raté qui tourne mal, qui périclite, et on voudrait pouvoir se reprendre, on voudrait pouvoir recommencer, avoir une seconde chance. Parfois, c'est dans une amitié manquée. On n'a pas été à la hauteur et on sent que la relation s'effrite. Et on voudrait avoir une seconde chance, faire les choses autrement. Juste se reprendre encore une fois, faire les choses différemment. Et je pense qu'on chacun d'entre nous, on passe par ces moments, à tous âges. En fait, j'ai le goût de dire, plus les années avancent, plus les jeunes arrivent dans ces moments très tôt dans leur vie même. À 12, 13, 15, 16, 17 ans. Et déjà, il y a ce sentiment, ce cri du cœur, Vous savez, ce sont ces moments où on voudrait que tout l'univers nous entende et qu'on puisse crier à tout le monde, « Time out! On arrête! Pause! J'ai besoin de repartir à zéro! » Vous savez de quoi je parle? Des moments de crise où on voudrait que la pression arrête. On voudrait pouvoir tout recommencer, repartir à zéro. Avoir une seconde chance. Les baptêmes auxquels nous allons assister dans quelques minutes représentent une seconde chance. Dans le langage des Saintes Écritures, on parle de nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, une seconde naissance. Et ça représente cette seconde chance. Nous naissons tous une première fois. Chacun, on a un père, une mère et on est venu au monde. Mais lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, lorsque nous saisissons et acceptons son message, la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer aux hommes, nous naissons une seconde fois. Ça, c'est le langage de la Bible pour parler de cette seconde chance qui nous est offerte en Jésus-Christ. On parle de la nouvelle naissance. C'est une deuxième occasion de repartir dans la vie. Lorsqu'on arrive dans ces moments de crise, où il y a ce cri du cœur qui commence à se former en nous, on voudrait tout recommencer à zéro. Bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Mais bien souvent, il y a de la culpabilité associée avec ce soupir. On voudrait repartir à zéro et il y a de la culpabilité qui se vit en relation avec ça. Bien souvent, dans bien des cas, il y a des remords associés à cela, il y a des regrets, de la culpabilité qui est associée au désir de pouvoir tout recommencer. Ou encore, il y a un grand sentiment d'incapacité. On se sent perdu et on voudrait pouvoir s'abandonner. Repartir à zéro, mais s'abandonner entre les mains de quelqu'un qui va nous prendre en main, qui va nous guider, qui va nous conduire. Et il y avait de ça aussi dans certains des témoignages que nous avons entendus tout à l'heure. Ce besoin d'être dirigé, d'être conduit, de se sentir perdu dans cet univers et dans notre vie, de vouloir recommencer avec une direction dans notre vie, un nouveau départ. Et ces moments de crise-là, lorsque nous les traversons, peuvent sembler tellement négatifs. Lorsqu'on est dans l'œil du cyclone, au cœur de la tempête, dans notre vie, et que tout ce qu'on sent, c'est un sentiment d'incapacité, ça peut sembler tellement négatif. C'est comme si tout est en train de s'effondrer. Il y a une panique parfois qui s'installe dans notre vie, dans notre cœur, de l'inquiétude qui est là, et ça semble négatif. Pourtant, si vous avez été attentif au témoignage tout à l'heure, ce n'est pas toujours négatif. Parce que dans certains cas, et bien souvent c'est le cas, c'est juste à ce moment-là que nous commençons à être attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et pour nombre d'entre vous qui êtes passés par les eaux du baptême, vous vous rappelez du jour de votre conversion, et c'est au moment où la souffrance devenait aiguë que votre oreille a commencé à s'ouvrir à Dieu. Un auteur que j'aime énormément, C.S. Lewis, un spécialiste de littérature médiévale et un grand écrivain irlandais, a écrit « La souffrance est le porte-voix de Dieu ». Il y a quelque chose de particulier avec le cœur humain qui fait que jusqu'à ce qu'on arrive dans ces moments de crise, on dirait qu'il y a une espèce d'arrogance, j'oserais appeler ça de l'arrogance. On n'a pas besoin de Dieu. Et pour plusieurs d'entre nous, notre histoire vers le salut, vers Jésus-Christ, vers une ouverture à Dieu, va passer par la souffrance. Parce que jusqu'à ce que la souffrance vienne, un sentiment de désespoir, une crise dans notre vie, un désir de repartir à zéro, de pouvoir tout recommencer, jusqu'à ce que ça vienne, il y a une certaine arrogance qui est là, une indépendance envers Dieu. Ce fut mon cas à moi. Et c'est seulement lorsque j'ai senti que je perdais le contrôle, que mon cœur a pu commencer à entendre ce que Dieu voulait me dire depuis des années, que mon cœur a pu commencer à s'ouvrir et que j'ai pu me tourner vers Dieu pour lui demander de m'accorder un nouveau départ, une seconde chance. C'est ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Une seconde chance. Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans pour offrir aux hommes une seconde chance. Une chance de repartir à zéro avec Dieu et avec nous-mêmes. D'accord? Je répète ça. Une chance de repartir à zéro avec Dieu et avec nous-mêmes. Lorsque Jésus est venu dans le but d'annoncer une bonne nouvelle aux hommes. On va fêter ça très bientôt, la venue de Jésus-Christ, c'est ça Noël. Il est venu dans le but d'annoncer une bonne nouvelle aux hommes et il est venu pour accomplir cette bonne nouvelle. Il n'est pas venu seulement annoncer un message. Il est venu ouvrir une porte aux hommes. Il est venu pour accomplir cette bonne nouvelle par sa vie, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Jésus-Christ est venu mourir sur cette croix pour payer, écoutez bien, le prix de toutes nos gaffes, de tous nos péchés, de toutes nos bêtises, de tout ce que nous avons pu faire et qui nous fait honte, tellement honte. En un mot, c'est ça que Jésus est venu faire. Et comme il était lui-même sans péché, Dieu le Père, son Père a accepté son sacrifice à la croix, à notre place. Et la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que Dieu a accepté ce sacrifice. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, a écrit quelques 700 ans avant la venue de Jésus, annonçant et prophétisant. Je vous demande d'être bien attentif au passage que je vais vous lire. C'est tiré d'Ésaïe 53 dans l'Ancien Testament, un texte des prophètes juifs. Soyez attentifs, vous allez reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit dans Ésaïe 53. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce prophète juif a écrit ces paroles quelques 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus est venu accomplir en venant sur la terre, en étant pendu au bois. Il a pris sur lui la honte de nos fautes, de nos péchés, de nos histoires secrètes. Afin que nous soyons guéris et que nous retrouvions la paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Que nous ayons une seconde chance. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous offre cette seconde chance. Les gens qui vont se faire baptiser ont accepté ce que Jésus-Christ leur offrait. Il nous offre une seconde chance, un nouveau départ. Il nous offre la possibilité de savoir que toutes nos gaffes, toutes nos bêtises, tous nos péchés sont pardonnés. Il nous offre la possibilité de faire la paix avec Dieu et avec nous-mêmes et de savoir qu'à compter de ce jour, Jésus-Christ nous accompagnera lui-même pour commencer une vie nouvelle, un nouveau départ. Comment faire pour entrer dans cette vie nouvelle? Saisir cette seconde chance qui nous est offerte, tout simplement en croyant dans cette œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir à la croix, en faisant un acte de foi. C'est un acte de foi. Mais lorsque nous acceptons le pardon que quelqu'un nous offre, nous faisons un acte de foi. En faisant cet acte de foi, de dire à Jésus-Christ, « J'ai besoin de ton sacrifice à la croix pour être pardonné de tous les péchés que j'ai commis qui me font si honte. J'accepte par la foi que tu as payé le prix à ma place, que tu as pris ma honte sur toi-même, gracieux sauveur. » Et si vous saisissez cela, vous avez saisi tout le christianisme. Et je peux vous assurer que si actuellement dans votre cœur, vous êtes disposé à faire cet acte de foi, l'Esprit de Dieu est déjà en train de vous parler, est déjà en train d'œuvrer dans votre cœur. Parce que sans l'intervention de Dieu, l'être humain n'est pas capable d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Les baptêmes auxquels nous allons assister représentent le premier acte de reconnaissance qu'un chrétien fait envers son Sauveur. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, dans le Nouveau Testament, alors qu'il écrivait aux chrétiens de l'Église de Rome, que par le baptême, nous nous identifions à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. C'est ça que vous allez voir dans quelques instants. Dans quelques minutes, ces personnes vont être immergées. Vous vous demandez pourquoi on ne fait pas simplement envoyer quelques gouttes d'eau sur eux? C'est parce qu'il y a un symbole puissant qui est là dans leur vie, qui représente une réalité spirituelle qu'ils ont vécue avec Dieu. Dans quelques minutes, ces personnes vont être immergées pour représenter leur mort, la fin de leur ancienne vie sans Jésus-Christ. Et ils vont ensuite sortir de l'eau pour représenter leur nouvelle vie en Jésus-Christ, leur résurrection spirituelle. Les chrétiens font cela depuis plus de 2000 ans. Depuis près de 2000 ans pour être identifiés à Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour eux à la croix. Est-ce que vous avez besoin d'une seconde chance? Est-ce que vous êtes prêt à croire et à vous identifier avec le sacrifice de Christ à la croix? Ce que Dieu demande de vous, c'est un acte de foi. Vous allez savoir si Dieu est en train de vous appeler, parce que Dieu va vous amener à cet endroit où un jour vous direz, il n'y a pas d'autre moyen de repartir à zéro, d'effacer mon passé, d'être en paix avec Dieu et en paix avec moi-même. Sinon, dans le pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de faire cet acte de foi dans votre cœur avec Dieu et ensuite de vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, tu as bouleversé ma vie. Il y a plus de 20 ans maintenant, Seigneur. Oh, j'avais entendu parler de toi comme Wedley, comme David, comme Josiane, depuis mon enfance, je fréquentais une église évangélique. J'avais entendu ton message, Seigneur. Et pourtant, je voulais vivre ma vie sans toi, Seigneur. Sans toi, Jésus-Christ. On m'avait dit que tu étais bon. On m'avait dit que tu étais un bon berger. On m'avait dit que la vie sans toi était dure et douloureuse. Cependant, Seigneur, j'ai choisi de suivre ma propre voie, mon propre chemin. Et dans ta grâce, tu m'as conduit dans cette vallée de mort et de souffrance à travers mes propres choix et les conséquences de mes actes. Et tu as ouvert mes yeux afin que je voie et que j'entende en qu'il n'y a aucun autre espoir sinon qu'en Jésus-Christ. Et dans ta grâce, tu m'as saisi par ton esprit. Et dans ta grâce, tu m'as convaincu de céder, d'arrêter de lutter. Et dans ta grâce, je me suis identifié avec Jésus-Christ, mort sur cette croix et ressuscité d'entre les morts. J'ai abandonné à Jésus-Christ la somme de toutes mes fautes, de tous mes péchés, de tout ce qui me faisait tellement honte. Et j'ai accepté que tu les avais pris sur toi à cette croix et que tu m'offrais une vie nouvelle, Seigneur. Depuis ce jour, je marche en nouveauté de vie. Chaque jour, tu me conduis par ton esprit. Je grandis, Seigneur, et je bénis ton nom. Et ce matin, nous sommes assemblés pour bénir ton nom pour ces vies, Seigneur, qui offrent un témoignage public et qui vont passer par les eaux du baptême. Dans ta grâce, saisis cette assemblée, Seigneur, et amène-en d'autres à faire cet acte de foi et à poser ce geste d'obéissance devant toi et devant les hommes, et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Pendant qu'on se prépare pour les baptêmes, je vous invite à vous lever, on va prendre un prochain chant.